Bon, les micros sont bien mis. Bon, j'espère que ça va aller parce que je suis quand même dans un studio de podcast et moi j'arrive avec mon matériel. Voilà, j'espère que ça va aller. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que non, mais c'est toujours quand même intéressant de voir si tout est OK.
Mais oui, j'en suis sûre.
Comment je vais faire un truc? Voilà. Là, je vais mettre mes questions là. Bam, bam, bam. Et là, c'est pareil, je couperai aussi si jamais.
D'accord.
Attends, je vais mettre ça plus près parce qu'autrement, c'est pas joli. Je vois trop. Attends, c'est pas bon.
Sais pas comment me mettre, dis-moi.
Hop, ah voilà, ça c'est bien. Non, ça c'est très bien.
Ah, ok.
Hop. Allez, c'est parti. Mon invité du jour a une addiction. Oui, une addiction, voire une fascination depuis toute petite pour les histoires et le son que l'on y associe pour convoquer notre imaginaire et nos émotions telles qu'elles soient. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène dans le studio de Pod Pod Pod, pensé et co-créé par Damien Delanoë et Céline Duvivier, mon invité du jour. Le credo de Pod Pod Pod, faire passer des messages à travers des récits audio sous forme de podcast pour la jeunesse et pas que. Raconter, expliquer, fabriquer des récits de manière ludique autour de problématiques et de questions que tout le monde se pose dès le plus jeune âge. J'ai rencontré Céline lors d'une soirée entre podcasteuses bruxelloises. Son univers m'a tout de suite plu et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses d'une série d'épisodes de podcasts réussis à destination des enfants et adolescents. C'est un public où l'on doit attirer leur attention dès les premières secondes. Alors, comment font-ils? Quel est le secret? Ou alors la bonne recette pour construire une histoire qui marche sans images, mais sonore, avec la voix, le rythme, le ton? Et c'est exactement à ce moment-là que l'imaginaire et l'amusement prennent toutes leurs dimensions. Dans cette conversation, Céline nous parle de ses études dans le cinéma, à l'IAD, puis dans le son, puis de ses premiers jobs à la télé belge en tant que monteuse puis productrice. Elle nous raconte son expatriation à Londres où elle découvre l'industrie des médias de production en plus grand, avec plus de moyens et d'opportunités. C'est un an après son retour à Bruxelles qu'elle décide de se lancer dans l'aventure audio et devenir sa propre boss. Oui, elle veut créer son propre studio avec son ami de longue date, Damien. Ce qu'elle aime, toucher à tout dans la chaîne de production d'un podcast, écrire des histoires, travailler le son, monter, diffuser. Elle y intègre d'ailleurs quelques principes so british comme l'organisation et la communication. Elle nous confie aussi ses défis et ses plus grands rêves. Une jolie histoire de passion et de création. Je m'appelle Isaline Nicole et vous écoutez J'aime quand vous souriez, épisode 27. Bonjour Céline.
Bonjour Isaline.
Ça va?
Oui, ça va, ça va.
Merci de me recevoir sur ton lieu de travail, dans tes studios, là où tu crées et enregistres tes podcasts. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Mais oui, bien sûr. Donc moi, je suis Céline Duvivier. Je suis productrice, réalisatrice, podcast et j'ai créé avec Damien Delanoë la structure de production Pod Pod Pod. Voilà, on avait l'envie de développer des séries podcast pour un public jeunesse, mais pas que. J'aime bien insister sur le fait qu'on ne fait pas que des podcasts pour enfants, mais voilà, c'était l'envie de créer Pod 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 et de développer notre activité là-dedans et a commencé comme ça, voilà.
D'accord. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené en fait à créer Pod Pod Pod? Quel est ton parcours en fait?
Donc moi, à la base, j'ai fait des études de cinéma en post-production, montage.
D'accord.
J'avais pris une option en production et donc pendant tout mon parcours, j'ai commencé un peu classiquement comme freelance en faisant du montage, beaucoup de montage son aussi à l'époque déjà. Et puis petit à petit, en fonction des jobs, etc., je me suis retrouvée dans des studios de post-production, à gérer des projets pour la télé, documentaire, fiction, un peu toutes sortes de choses, mais toujours alors à ce moment-là comme employée et à gérer des équipes de post-prod. Et j'ai remonté petit à petit la chaîne de production, c'est-à-dire à la base de mon métier de monteuse, j'ai commencé à gérer des équipes de post-production.
D'accord.
Et puis un projet s'est présenté qui m'a permis de devenir productrice, c'est-à-dire de gérer aussi la partie tournage de certaines émissions de télé, etc. Donc toujours en coordination d'équipe et en m'éloignant de plus en plus du contenu, du fait de créer du contenu en étant monteuse et en prenant plus une place de productrice, gestion d'équipe.
D'accord.
Dans des studios. Et puis.
Et tu travailles pour la télé belge ou
Oui,
d'accord.
Oui. J'ai aussi vécu 3 ans à Londres.
D'accord.
Donc voilà, dans notre histoire familiale, on a eu l'opportunité d'aller s'expatrier à Londres pendant 3 ans. Bon, c'était en plein Brexit et ça a fini par le Covid. Donc c'était compliqué dans le sens où c'était une période assez dense, mais ce qui m'a permis aussi de travailler dans une boîte de post-prod à Londres, dans un autre marché que le marché belge, quoi. Et de découvrir un peu cette industrie, parce que chez nous, en Belgique, ça reste petit et tout le monde se connaît, tout le monde fait un peu de tout. Là-bas, les rôles sont plus cloisonnés et l'échelle est vraiment 10 fois plus grande, c'est-à-dire en termes de budget, de production,
Oui.
super production. Voilà, là où je gérais un studio. Avec 10 salles de montage à Londres, je me suis retrouvée dans une grosse entreprise où il y avait 12 personnes comme moi à gérer des projets et une centaine de salles de montage réparties sur 3 bâtiments.
Oui, c'est
Enfin,
ça.
voilà, l'échelle
Ouais.
était complètement autre. Les technologies, la façon de travailler, c'était une belle découverte, quoi. Voilà.
Et qu'est-ce que tu as préféré? Tu préfères travailler dans un milieu ou avec une échelle plus à taille humaine comme ici en Belgique ou alors tu as aimé travailler en voyant plus grand à Londres?
Alors, j'ai adoré découvrir le côté plus grand, un marché avec vraiment plus de moyens, plus voilà, d'opportunités, etc. Ça, c'était très chouette. Mais voilà, après, je pense qu'il y a eu un petit mélange de passage Covid, crise de la quarantaine et tout ce qui va avec.
Évidemment.
c'était une sorte de mélange où je pense qu'à cette période-là, beaucoup de gens se sont posé des questions sur leur métier, ce qu'ils avaient envie de faire et tout ça. Et moi, il y a eu cette prise de conscience et de décision, que j'avais envie de revenir à mes premiers amours, à la création, à mettre les mains dans le cambouis moi-même, à réécrire, à remonter, voilà. Et donc, ça a été un peu un retour en arrière, de passer d'une grosse industrie à quelque chose de plus petit et voilà, dont je maîtrise toute la chaîne, quoi, de A à Z. Voilà, j'avais cette envie de me retrouver.
Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir toucher, entre guillemets, à tout, plutôt que d'être cloisonné
dans un rôle,
seul job. Ouais, ouais.
Exactement. Et c'est ce qui se passait à Londres. En fait, les rôles sont très, très spécifiques et il y a toute une hiérarchie. Donc, tu passes d'abord de assistant de production. Et puis, voilà, il y a toute une échelle à respecter. Et le titre est vraiment très précis sur ton contrat. Donc, tu ne sors pas des tâches qui
D'accord.
te sont assignées, etc. Et
oui,
ça, c'était intéressant pour comprendre comment un workflow technique et humain peut fonctionner sur des très grosses productions. Mais moi, je ne m'y retrouvais pas. J'avais besoin de toucher à tout.
Oui.
Et de, voilà.
Ouais, ouais.
Mais c'était une super expérience, j'ai adoré.
Et c'était pour la télé anglaise ou c'était
Pour tout, j'ai travaillé pour...
Ah oui, d'accord.
Ouais, on a délivré des projets pour des chaînes américaines, essentiellement aussi pour les télévisions anglaises, BBC, Channel 4,
etc.
En
plus, je trouve que les anglo-saxons, ils ont aussi une autre façon de travailler, et ça est super intéressant aussi d'avoir un peu l'envers du décor, comme tu disais, avec des budgets qui n'ont rien à voir avec les budgets de la Belgique.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça doit être aussi intéressant.
C'était vachement intéressant. Et ce que cette expérience m'a le plus appris, c'est l'organisation et la communication, quoi.
Ouais.
J'ai encore des grands principes que j'ai gardés de cette façon de travailler. C'est, par exemple, une phrase que ma boss me répétait tout le temps, « Never assume, never presume ». Donc, si tu ne sais pas quelque chose, pose la question à ton client, vérifie l'info, redemande si nécessaire. Enfin, il y avait ce truc de, voilà, on attend que ce soit mis par écrit pour que ce soit validé. Enfin, il y avait des choses que je faisais
tellement
un peu
d'accord.
plus freestyle avant, mais parce que ce n'est pas dans la culture
non.
belge, forcément. Et donc, j'ai pris tout ça, j'ai pris tout ce qu'il y avait de bon à prendre dans cette expérience londonienne, pour la ramener un peu ici en Belgique, quoi.
Oui, mais c'est vrai parce que ce soit dans ton métier ou même dans d'autres métiers, que ce soit ici en Belgique ou même en France, quelquefois on n'ose pas demander parce qu'on a peur que ce soit perçu comme quelqu'un qui s'y connaît pas ou...
Voilà.
Mais je pense que ça vient peut-être de l'enfance, ça, parce qu'à l'école, moi, je me souviens, même lever la main, c'était un peu compliqué.
Exactement.
Alors que dans les pays anglo-saxons, on voit quand on voit les enfants, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, même aussi dans les pays nordiques, ils ont confiance, ils se lèvent même pour poser une question ou parler à la classe, quoi.
Exactement. Et
Et ça, c'est ça, j'adore. Ça, j'adore le milieu, enfin, ouais,
mais
anglophone pour ça.
ce que tu dis est tout à fait juste et ça a participé aussi à l'idée de créer Pod Pod Pod. Enfin, c'était encore qu'une. C'était même pas Pod 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 dans ma tête à ce moment-là, mais mes enfants étaient à l'école anglaise, à l'école publique anglaise en primaire, et il y a cet art de la parole et du discours qui est travaillé dès le plus jeune âge. Donc, tous les matins, les enfants s'expriment, ils présentent tous les X, je crois que c'était tous les trimestres, de façon formelle sur scène aux parents, leurs acquis, leur savoir, etc. Et c'est sous forme d'un petit spectacle. Voilà, et il y a cet art de la parole, de la prise de parole, de défendre ses idées, etc., qui est so British, qui est exceptionnel et qui m'a aussi donné envie de renouer avec ce côté son, voix, parole. Et voilà, et je me disais qu'il y avait plein de choses à faire et c'était très inspirant de voir ça.
D'accord. Et c'était quand ta période londonienne avec
Jusqu'en
l'époque?
2020, donc de
Ah oui, d'accord.
2017 à 2020,
D'accord.
ouais, donc
Juste
j'étais
avant
gentille.
le Covid. Ok.
Bon, c'est le Covid qui nous a fait
Ouais.
revenir,
Ouais.
ouais.
Ah sinon tu serais resté là-bas ou?
En tout cas, c'était possible,
Ouais.
ouais. Mais
Mais.
c'était une période qui était compliquée autant pour à cause du Brexit que le Covid. On est quand même sur une île, isolée de nos familles. On ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé non plus en termes de vie professionnelle. Et il faut savoir que vivre à Londres sans travail, c'est juste pas
Ah oui,
possible.
c'est clair.
Et comme mon compagnon et moi, on avait tous les deux
Ouais.
des boulots potentiellement à risque, c'est-à-dire que les tournages allaient s'arrêter et donc
Ah
plus de
ouais, c'est vrai.
post-prod.
Ouais.
Et lui avait un métier aussi à risque, dans le sens où voilà, le fait de ne pas pouvoir vivre, etc., l'empêchait de faire son boulot. Et donc, voilà, la décision de rentrer a été prise assez rapidement, en fait, parce que le risque de vivre sans travail à Londres était trop important.
Ouais.
Et puis même le fait d'être éloigné de nos familles, il faut se rappeler que c'était une période quand même très stressante.
Ouais.
Avant que le vaccin arrive, etc.
Ouais,
Et
tout à
donc, on est
fait.
rentré à l'été 2020, et puis on a encore mangé deux vagues de Covid derrière
Ouais.
en rentrant en Belgique. Donc, la
D'accord.
réadaptation à la Belgique n'a pas été facile non plus.
D'accord. Et alors, vous rentrez en Belgique et qu'est-ce qui se passe?
Alors, ce qui se passe, c'est que j'avais décidé fermement que j'allais redevenir freelance, travailler à mon compte et faire du son, faire ce que j'aime, c'est-à-dire du podcast, écrire des histoires, etc. Et j'ai été engagée dans un studio d'animation pour faire un film d'animation, donc vraiment du visuel comme coordinatrice de production. Et à cette période-là, évidemment, on rentrait de Londres, on savait pas, on n'avait plus de boulot, voilà, il fallait se réinstaller en Belgique et retrouver nos marques. Donc j'ai évidemment accepté ce contrat et donc. Tout en gardant dans la tête qu'un jour je serai freelance, je serai du son, je reviendrai à mes premiers amours, qui est le podcast. Et je ne l'ai pas fait tout de suite. Il m'a fallu encore un peu de temps avant d'y arriver. Voilà. Et donc, pendant une année, j'ai encore travaillé dans ce studio d'animation. C'était une très chouette expérience aussi, parce que ça m'a. Voilà, je travaillais sur un long métrage d'animation. Je n'avais jamais fait de l'animation à cette échelle-là non plus. Et c'était une chouette opportunité aussi de rentrer en Belgique avec un contrat tout de suite, en fait.
Ouais.
Voilà. Mais ça m'a un peu éloignée de mes intentions, de mes
Ouais,
ambitions pour
ouais.
moi-même. Et voilà, j'y suis quand même revenue, donc voilà, heureusement, j'ai bien fait.
Et alors, comment ça s'est passé cette période où tu as lancé Pod 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 comment ça s'est fait?
Ah, ça, c'était assez rigolo, puisque j'étais rentrée, je travaillais dans mon studio d'animation, et j'avais quand même cette furieuse envie d'écrire des histoires, de travailler le son, ce que j'ai toujours aimé faire. Et j'ai rappelé Damien, donc je parlais de mon collègue Damien, qui était à ce moment-là un ancien collègue d'un autre
Ah,
studio.
d'accord. Ok.
Donc on avait déjà travaillé plusieurs années ensemble, on se connaît depuis longtemps, on est amis depuis très longtemps, et on avait déjà été collègues et producteur sur des émissions. Lui est réalisateur et scénariste aussi. Et je l'avais rappelé en disant « Ah tiens, je suis rentrée de Londres ». Qu'est-ce que tu glandes là en ce moment?
Qu'est-ce que tu fais?
Ouais, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et tout ça. Il me dit, oh, bah, je sais pas trop. J'ai dit, bah, écoute, moi, j'ai voilà, je pense à écrire des podcasts pour enfants, je ne sais pas trop quoi, ni où, ni comment. Est-ce que ça ne te dit pas qu'on se dégage du temps Et je pense que notre tout premier deal, entre guillemets, c'était de se dire, on dégage nos vendredis après-midi, enfin, je ne me souviens même plus exactement quel jour de la semaine, mais dans notre emploi du temps, on essaye de libérer nos vendredis après-midi, on se met autour d'une table et on brainstorm sur toutes les idées qu'on a, quoi. Bon, et il se fait qu'il a embarqué tout de suite dans le projet, ça l'a vachement amusé, on a commencé à s'enregistrer, on a fait un pilote, un premier projet, mais on n'avait pas de structure, rien du tout, quoi. Et on a écrit un petit dossier. À ce moment-là, on avait imaginé une série sur la santé, l'alimentation pour les enfants, parce qu'on avait tous les deux des enfants en bas âge et qui étaient un peu ronchons à l'idée de manger des légumes. On devait tout le temps mettre des voilà, non, mais pas de soda. Enfin, voilà, un peu voilà des stress de parents ouais. Qui doivent élever des enfants jeunes. Et ça nous amusait de parler de ce sujet-là, qui est quand même parfois tendu au moment de mettre la table. Ah, j'aime pas, oui, c'est pas ça. Bon ce que t'as fait. Enfin bref, oui. Comment bien faire manger ses enfants, c'est quand même un gros challenge pour les parents. Et on s'était dit, on part de cette idée toute simple pour en faire un podcast. Et on a écrit, on a imaginé, on a enregistré un pilote, tout ça un peu en freestyle nos vendredis d'après-midi. On a un dossier qui est arrivé, qu'on a pu présenter à l'époque au Bruxelles Podcast Festival. Et puis on a essayé de frapper à toutes les portes et tout le monde nous a dit, oh bah c'est une super idée, c'est chouette et tout. Puis on s'est mis à chercher une boîte de production en disant, bah, on a un projet qui pourrait naître et qui est sympa, qui a l'air de plaire à plusieurs personnes. Donc on va se trouver un producteur, mm-hmm. quoi. Ou une productrice. Et en discutant avec les quelques boîtes qui étaient sur le marché déjà, on s'est rendu compte déjà que ce n'était pas si simple de produire un podcast. Mmh. Et puis surtout que si on arrive à financer ce projet, le peu de cacahuètes qu'on va avoir pour le faire, il faut que ça nous revienne à nous.
Oui, tout à fait.
Voilà, qu'on ne peut pas dilapider notre petit budget entre un producteur, une productrice, une salle de montage, un mixeur. Enfin, voilà, il fallait absolument qu'on garde un maximum d'argent pour mener à bien le projet. Mmh. Et puis je ne sais pas, un jour, j'ai proposé à Damien, j'ai dit, écoute, je pense qu'on peut se produire, on peut s'autoproduire. Est-ce que tu es d'accord de créer une structure de production mmh. et voilà. Mais on n'avait rien, on n'avait absolument rien. On avait un pauvre pilote de cette oui. série. On avait quelques idées sur papier et c'est tout. Voilà, il n'y avait pas plus. Et puis il m'a dit oui. Il m'a dit, allez, soyons fous, allons-y. Et c'est aussi un petit peu un processus pour moi de me dire que j'avais les épaules pour être ma propre mmh. boss, produire mmh. mes propres projets, assumer tout le workflow et voilà, signer des contrats d'auteur, enfin voilà, ouais. tout ce qui va avec, et de pas attendre d'un boss au-dessus de moi qui me dise quoi faire, enfin de devenir en fait ma propre patronne. Je l'avais été en freelance, mais c'est pas tout à fait pareil que vraiment de gérer ouais. une structure avec des gens.
Et c'est quelque chose qui te tentait ou t'as eu un peu peur? Oui, mais
non, j'avais déjà lancé une première structure au tout début de ma quand j'étais freelance, quoi, ouais. Qui était voilà, deux salles de montage avec une copine. On s'était dit, bah voilà, on va lancer notre petite boîte de post-production à l'époque. Mm-hmm. On était encore dans l'audiovisuel. Mais bon, voilà, on était très jeunes à l'époque, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Oui. Et puis, on avait eu d'autres ambitions l'une et l'autre pour nos carrières. Donc, on avait vite assez abandonné le projet. Mais je pense qu'en moi, il y avait toujours une envie d'être entrepreneuse et à mon compte. Il a fallu de nombreuses années pour me sentir légitime, me sentir capable et puis d'assumer, quoi, en fait, tout
oui,
simplement que j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un d'autre, quoi.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
C'est ça qui...
ouais. ma propre patronne. Ouais.
Voilà, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup trop de temps à mon goût, mais... Ça...
Oui, mais ouais. peut-être parce qu'avant, t'étais pas, enfin, entre guillemets, pas prête ou... voilà, il a fallu peut-être oui. que Damien revienne dans ta vie pour,
ouais, exactement.
Pour tout
exactement.
Ça.
Non, puis c'est vrai que le fait d'être deux et puis de s'emballer dans un projet comme ça, ça oui, ça aide, évidemment. Mm-hmm. C'est beaucoup ouais. plus facile que quand tu dois faire toute seule dans ton coin, ça c'est sûr.
D'accord.
Donc, voilà.
Et tu le disais, hein, tu es passionnée par tout ce qui est son, par les histoires. Est-ce que c'est quelque chose d'où ça te vient? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais déjà quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a transmis ça?
Oui, je pense, même si je ne m'en suis pas aperçue, tout de suite, c'est que ça a toujours fait partie de moi. On sait qu'il y a des gens qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus visuels. Moi, je suis clairement une auditive. Mmh. Donc, quand j'étais petite, j'avais les fameux livres audio. Enfin, c'était même... quand j'étais vraiment toute petite, c'était les vinyles audio avec
les
racontent des histoires. Et alors, tu pouvais tourner le catalogue pour suivre l'histoire ou les images, etc. Ouais. Et puis après, j'ai eu les fameuses cassettes où ça
Il
fallait tourner la page. Ouais. Et je raffolais de ça. Enfin, c'était un truc de dingue. Et alors, je pense aussi qu'un déclencheur avec lequel j'ai beaucoup joué quand j'étais enfant, c'est le fameux Fisher-Price avec le micro. Donc tu pouvais le recorder.
D'accord.
Quoi. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un truc super vintage.
Peut-être faut que je. Voilà. Je pense qu'en le voyant, oui, je vais dire ah mais oui.
tu pouvais jouer tes, enfin lancer tes cassettes musique d'histoire. Bon, moi j'avais ces fameuses cassettes avec un petit livre qui accompagnait. Je me souviens les Aristochats par exemple. C'est Disney qui produisait ce genre d'histoire sonore quoi. Et c'était assez bien fait parce qu'on entendait quand même déjà un peu les petit bruitage derrière, j'adorais ça. Et puis, je pouvais aussi m'enregistrer. Ce que je faisais beaucoup avec mon frère, on s'enregistrait, on se faisait semblant de faire des interviews radio et tout ça. On s'est pas mal enregistré sur ces fameuses cassettes, comme beaucoup d'enfants de cette époque-là, je pense. Mais voilà. D'ailleurs, ma maman a retrouvé ce fameux recorder Fisher-Price que j'ai à la maison. Donc et il fonctionne encore, donc c'est dingue. Je l'ai montré à mes enfants en disant, voilà, tout a commencé là. Et puis, plus tard, quand j'étais ado, mon papa a eu la géniale idée de m'offrir un Walkman, le fameux Walkman Sony cassette, toujours. Et en fait, le son a toujours fait partie de ma vie. Et puis, le pendant, plutôt comme histoire, imaginaire, etc., j'ai toujours été une grande, grande lectrice. J'ai toujours adoré les histoires, les livres. J'avais mon rendez-vous à la bibliothèque communale tous les mercredis. Donc j'avais mon cours de guitare et puis j'allais à la bibliothèque chercher mes bouquins. J'ai fait ça toute seule très vite. C'est d'office mes parents qui m'ont donné ce goût des histoires et du son. Mais j'ai enclenché dedans tout de suite, quoi. Ça a toujours fait partie de moi. Et puis plus tard, quand j'ai fait mes études de montage à l'IAD...
Tu étais à l'IAD,
d'accord. Ouais, j'étais à l'IAD à Louvain-la-Neuve.
Qui est une école hyper reconnue, hein, quand même.
Ouais. J'ai pas fait l'IAD tout de suite non plus. J'ai d'abord fait un master en communication.
D'accord.
Et en dernière année de master, j'ai appelé mon papa en disant c'est la catastrophe. En fait, j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu faire des films, raconter des histoires, etc. Je vais refaire des études. Il m'a fait
t'es sûre?
3 ans de plus, mais qu'est-ce que c'est cette histoire?
Je fais juste une aparté, mais qu'est-ce qui t'intéressait dans le cinéma?
Bah, les histoires, raconter des histoires et surtout aborder des thématiques sous un angle qui bouscule, qui crée de l'émotion, qui fait réfléchir. Enfin, il y avait un truc comme ça de... Je pense que, sans pouvoir le formaliser ou le dire, mais j'ai toujours su que les histoires changeaient la vie des gens, quoi. Enfin, que c'était un terreau de réflexion, de cohésion.
Ouais.
Enfin,
c'était
assez large et un peu... naïf. D'accord. De penser ça. Mais donc, je me suis retrouvée dans ces études en montage, parce que j'avais aussi découvert un peu cet art du montage et que ça me plaisait beaucoup. Je me dis, mais ça, c'est un truc technique que j'adore. J'avais un côté aussi un peu technique geek. Et voilà, ça correspondait bien à mes attentes. Et puis, en deuxième année de montage, j'ai découvert le montage son. On a commencé à faire des exercices vraiment de placement de son avec une machine dédiée. Je sais plus, je crois que c'était le DD500, 5000. Je ne sais même plus le nom de cette machine.
Je ne saurais pas te dire.
Non, c'est un truc qui ne s'utilise plus du tout maintenant, mais c'était vraiment avec des bandes. Il fallait fallait charger les disques avec les sons par banque de sons, les cris, les bruits de vent, les chutes. Enfin, il fallait aller chercher tout ce sound design. Et là, ça a été une révélation, quoi. Je disais, ah, mais c'est génial. Puis alors, la machine faisait tu vois, avancer, reculer. Enfin, il y avait un truc dans la manipulation et tout ça qui était, voilà. Et je me souviens qu'en dernière année, j'avais eu une grande discussion avec un ingé son de l'école. Et je lui disais, je crois que je me suis trompée de filière, j'aurais dû faire le son. Ça me fascine, j'adore. Après, on fait du son en montage, mais tout ce qui est prise de son et tout, je me dis, zut. J'aurais dû faire ça. Et puis, je dis, j'adore, je voudrais qu'il y ait des films rien qu'en audio. Je voudrais pouvoir consommer ça. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais qu'il existe Arte Radio? Arte
Oui.
Radio, la radio qui fait du documentaire
Ouais.
sonore.
Tout à fait.
Et ça faisait 1 an ou 2 que ça existait. Mais j'avais un peu zappé le début. Bon, je connaissais les histoires à la radio classique.
Oui.
Il y avait certaines émissions qui étaient plus documentaires ou avec du montage son, etc. Mais là, ça a été la révélation. Et à partir de ce moment-là, ça a été une obsession. Voilà. D'écouter des podcasts. Ça s'appelait pas podcast à
Ben non,
l'époque.
c'est ça. C'était
Mais
quoi, documentaire?
documentaire radiophonique
Ouais, c'est ça.
ou création sonore. Enfin, il y avait des noms comme ça un peu.
Mmh.
Voilà. Mais en gros, c'était du docu, des histoires racontées en son et aussi sound designées. Donc, ce n'était pas juste une chronique
Oui,
blablatée à
oui,
la
oui,
radio
oui.
ou une enquête journalistique. C'était vraiment, il y avait un univers
Ouais.
sonore qui venait appuyer une histoire, quoi. Et là, je pense avoir été la plus grande consommatrice de toutes les productions Arte Radio. Voilà.
Est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas, au niveau statistique, bon, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent des podcasts, je pense. Avant, c'était peut-être moins
Mais ça s'appelait pas
dans l'air.
podcast, quoi. Donc,
Oui, c'est ça.
fallait télécharger les sons et les mettre sur son lecteur MP3.
Oui, c'est ça, c'était moins facile.
C'était moins facile. Ou alors,
On
en
les écoutait
ligne,
en live.
les players online n'étaient pas toujours efficaces. Donc, ça demandait un peu de
Chipotage,
geek attitude pour y
ouais.
arriver. Mais moi, je partais en vacances avec
Oui, mais c'est
15
ça.
heures
Parce que toi,
de
t'aimais.
son que
Oui,
j'avais
mais.
téléchargé pour
Ouais.
passer. Voilà, plutôt que de lire dans mon transat, j'écoutais des documentaires sonores de Arte Radio. Enfin, voilà. Donc, ça a commencé. Mais là, je te parle de.
Ouais.
Ouais, c'était 2005, 2006,
Oui,
quoi.
c'est
Là.
ça.
Ouais, donc il y a 20 ans, quoi. Ouais.
Mais je pense que tu étais assez. Enfin, il y avait certainement d'autres gens comme toi, mais tu étais assez pionnière parce que, oui, moi, j'écoutais plus de la musique à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, quand je pars quelque part, ou même si j'ai un trajet en train ou en métro, j'écoute un facile, beaucoup plus facilement un podcast. Ouais.
Ouais, moi c'était, disons, ouais, j'avais l'impression d'écouter moitié-moitié, quoi, autant de musique que de ce genre. Mais c'était fascinant, enfin, c'était addictif, quoi. Il y avait
Ouais.
ce truc.
Oui, c'est ça.
Je pense que
Ouais.
mon histoire par rapport au podcast commence par une addiction, quoi,
Ouais.
clairement. Raconter, enfin,
Bon, ça va,
entendre
c'est une bonne
des.
addiction.
Ouais, c'est ça, mais entendre des gens qui racontent des trucs intimes.
Ouais.
Et qui m'ouvre des perspectives que j'avais jamais imaginées, ben, je trouvais ça fascinant, quoi. Mais l'idée d'en faire moi-même est venue plus tard, hein. Alors que j'avais
D'accord.
toutes les cordes en main, mais ça a travaillé, quoi. Voilà.
Ouais. Et est-ce qu'on n'est pas aussi plus attentif quand c'est une histoire qui est audio?
Ah ben moi j'en suis persuadée,
Ouais.
mais c'est pas encore admis par tout le monde. Mais moi je pense qu'il y a une
Ouais.
attention. Bah, dès que tu poses un casque sur tes oreilles, tu vois que ton attention se. Enfin, en tout cas, la mienne se focalise à 100% sur ce que j'écoute, ce que j'entends, et j'adore ça. Et je le vois avec mes enfants aussi, dès que je leur mets un. Bon, on se plaint toujours des enfants avec les écrans et tout ça, qui gigotent dans tous les sens, etc. Mais dès que je leur mets une histoire dans
Ouais.
les oreilles, pouf, ça fige.
Oui,
Ils
c'est ça.
stoppent, ils frisent,
Ils
ils sont là,
écoutent, ouais.
ils écoutent, en fait. Et ils sont dedans, et ils entendent tout. Et.
Et puis ça développe l'imaginaire.
Exactement.
Bah, c'est comme un livre, hein.
Ouais.
On développe notre imaginaire.
Mais je pense, j'ai une petite théorie aussi sur ce rapport à l'écoute que j'essaie souvent d'expliquer. Je l'ai pas vérifié scientifiquement, mais je pense que bon, on utilise nos 5 sens pour savoir dans quel monde on est. Et la société a beaucoup développé le visuel, quoi, la vue. Donc c'est des écrans, des textes, des affichages, etc. Et je pense qu'on a un peu maltraité l'ouïe. En nous mettant dans des bureaux qui ne sont pas bien acoustiqués, qui
Bien
sont
sûr.
désagréables, avec des sons qui perturbent, etc. Et je suis absolument persuadée que l'ouïe, en fait, c'est le sens de l'attention et du temps où on était Homo sapiens, c'était celui qui nous donnait des signaux de
D'alerte,
danger,
ouais.
d'alerte ou de calme, d'apaisement,
Tout
genre,
à
ah, les
fait.
petits oiseaux chantent, ça veut dire que tout va bien. Et donc, ce sens est tout le temps actif, là où on peut fermer les yeux ou être dans le noir. L'ouïe fonctionne toujours, non-stop, et il sert à ça, à alerter sur le danger ou l'apaisement. Enfin, voilà. Et donc, je pense que nos sociétés n'ont pas bien tenu compte de ça, en fait. Et j'ai l'impression, pareil, quand je vois un peu les évolutions technologiques, par exemple, il y a eu les Google Glass et tout ça, on a dit, ah oui, il faut augmenter la vue, mettre des lunettes technologiques, machin. Et puis, ça a foiré, et maintenant, on développe à fond tout ce qui est casque, comment couper les bruits de fond, enfin, le noise cancellation technology, ce genre de choses. Et ça, ça prend de l'ampleur. On voit que ça fonctionne, qu'il y a de plus en plus. Donc voilà, c'est pas tout ça n'est pas du tout scientifiquement appuyé. Hein, j'en sais rien, j'ai pas lu des études là-dessus, mais j'ai ce feeling que les auditifs reviennent un peu en force.
Ah oui, mais complètement. Bah, on parle quand même beaucoup, notamment dans le monde de l'entreprise, avec les pauses open space, la pollution sonore, je m'en suis rendu compte aussi qu'en fait j'ai besoin, et ouais, c'est intéressant de savoir dans quel environnement on a envie de travailler. Ça dépend sur quoi je travaille, mais il y a des choses où j'ai besoin d'être concentrée, donc d'être au calme. Des choses plus répétitives où c'est ok, mais ou même c'est une pollution sonore qui fatigue.
Voilà, c'est clair. Moi, une chose qui m'a libérée assez récemment, c'est quand j'ai acheté mon premier casque avec un noise cancellation, donc qui vraiment que je porte très très souvent, même sans rien mettre dedans, podcast ou de musique. C'est juste pour m'isoler sonorement, et du coup ça me permet d'être dans ma tête et de me concentrer, quoi. Justement du bruit qui nous dérange.
C'est grave.
mes enfants me narquent souvent parce qu'ils savent que je suis très sensible au son. Je pense que j'ai un petit problème d'hyperacousie en vrai. Mais quand ils jouent à la balle ou qu'ils font qu'ils sont très bruyants, ils connaissent les sons qui m'agacent, et alors parfois ils me titillent avec ça. Ils viennent chercher mon attention avec une balle qui fait beaucoup de bruit, ou un truc qui fait clic clic, ou voilà. Mais bon, c'est une blague entre nous finalement.
Voilà, bon, c'est l'essentiel.
Ouais.
Et alors si on revient à l'aventure pod, comment ça se crée, et ensuite, quels sont vos thèmes de prédilection, quel est votre processus de création pour lancer et créer un podcast, comment ça se passe concrètement?
Mais donc, par rapport au thème, l'histoire de Pod a commencé comme ça. Donc, comme je t'expliquais avec Damien, on a mis un peu des idées à plat, et à ce moment-là, on avait chacun des enfants en bas âge, et donc... parler de l'enfance, des enfants, des problématiques de parents par rapport aux enfants, c'était un truc, on était dedans, donc forcément, on ne parle jamais mieux que ce qu'on est en train de vivre.
Oui,
donc,
tout à fait.
C'est venu assez naturellement, et on a posé plusieurs idées de podcasts qu'on pourrait trouver marrants ou chouettes à développer. Il y avait ce fameux podcast sur la santé et l'alimentation, là, qui est en train de sortir justement maintenant. On avait d'autres, on trouvait... Par exemple, c'est une idée qui était venue assez vite en disant « mais c'est marrant, toutes ces phrases-là, travailler le langage, quoi, toutes ces phrases qu'on dit et que les enfants ne comprennent pas », et on s'était pris un petit délire là-dessus. Et on s'est dit, en fait, toutes ces phrases, ces expressions idiomatiques, pour le dire, donc, dont les mots ne disent pas du tout le sens de la phrase, quoi. Par exemple, donner sa langue au chat, en fait, ça veut pas dire donner sa langue au chat, ça veut pas dire on se coupe la langue, on la donne à bouffer au chat, ça veut dire autre chose. Et en fait, pour les enfants, ce genre de sens littéraire versus sens littéral, on trouve que le décalage était marrant. Enfin, on a toujours tout de suite trouvé que le décalage était marrant. Et donc voilà, c'est comme ça, on avait brainstormé sur plusieurs idées, on a présenté des projets, et puis ça se fait que l'ARTB a validé lors d'une séance de pitch une de nos idées, et puis c'est comme ça que ça a démarré, quoi.
D'accord.
On avait dit, vous trouvez aussi que parfois les phrases utilisées par les grandes personnes, elles ne sont pas compréhensibles pour les enfants, voire très rigolotes si on les prend au sens littéral. Donc l'idée, elle venait de là. Et puis la RTB a fait, c'est super, en plus on doit faire de la promotion de la langue française, et puis on doit développer des contenus pour la jeunesse. J'étais,
parfait.
Allez-y.
Oui, parce qu'au final, dans les podcasts, il y a beaucoup de contenu pour les adultes. Mais c'est vrai que pour les enfants, enfin, il y en a, mais peut-être un peu moins.
Alors, il y a des podcasts pour les enfants, et ça se développe de plus en plus parce qu'on se rend compte qu'il y a une manne d'audience et un espace d'audience qui est encore à acquérir de ce côté-là. Et je dois quand même dire que quand nous on s'y est mis, il y avait déjà les podcasts de France Inter, de Radio France, il y avait déjà des gros cartons comme les Odyssées les Bestioles, pour le dire en jargon, ils avaient plié le game, quoi. Ils avaient déjà amené un niveau de création pour la jeunesse qui est super, quoi, avec une voix, un ton, une écriture pensée pour les enfants. Et voilà. Et ce type de production, c'est relativement récent. Pour revenir au début de ce qu'on se disait, ce qu'on faisait pour les enfants, c'était du livre audio un peu sonorisé, avec où tu tournes ta page et des trucs comme ça, mais il n'y avait pas encore vraiment cette écriture propre podcast pour les enfants. Ça, c'est effectivement France Inter, je dirais, qui a un peu lancé le truc. Moi, j'en avais écouté quelques-uns quand même en anglais à l'époque où j'étais à Londres et qui m'avaient bien inspirée aussi. Et donc, voilà, donc, on est arrivé avec nos idées. Il y avait déjà des choses qui existaient, mais il y avait de la place, voilà. On va dire.
Oui, c'est ça.
Il y avait de la place pour nous, quoi. Ouais.
Et alors, vous avez l'idée, vous la pitchez, et ensuite, comment ça se passe? Parce qu'une fois que c'est validé, il faut...
Alors là, il faut travailler.
Travailler.
En général, c'est sortir le premier épisode ou le pilote qui est le plus compliqué. Moi, j'aime bien dire qu'il y a un peu quatre phases d'écriture, quoi. Donc... il y a une phase de recherche, hein, parce que nous, on travaille sur des podcasts un peu ludiques et didactiques, donc il y a quand même de l'info. On ne raconte pas que des histoires de fiction, on essaie de faire passer une information ou un savoir ou quelque chose, mais en utilisant les codes de la narration. Et donc, la première écriture, c'est vraiment la recherche. Est-ce que ce qu'on dit est valide? C'est de la recherche journalistique, éditoriale, voilà. La deuxième phase, c'est comment on peut vulgariser ce contenu et le rendre accessible aux enfants, c'est-à-dire le rendre rigolo, etc. Et puis, on passe en enregistrement, et là, même pendant l'enregistrement, on réécrit certaines parties, on se dit « Ah non, mais ce rôle-là, il n'est pas super, il faudrait un peu le transformer », on réinvente des phrases, des mots au moment de l'enregistrement. Et puis, la phase souvent qui est la plus fatale ou la plus difficile, c'est quand on passe en montage et on se rend compte qu'on a fait que de la merde. non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Mais je pense que tous les gens qui font du montage, qui réalisent et puis qui passent en montage se disent à un moment donné, mais c'est la catastrophe.
Ouais.
Et puis, on travaille en montage. Il y a cette phase de réécriture en montage qui permet de justement aller à l'essentiel, faire des coupes. Faire des retouches, ça nous arrive très souvent de réenregistrer des petits pick-up quand une phrase n'a pas été bien dite. Voilà, et puis toute l'orfèvrerie du sound design, des petits éléments sonores, de la musique, etc., qui vient enphaser tout ça. Et puis on termine souvent en mix en se disant « Ah, mais ça va, finalement, c'était pas si nul ce qu'on a fait.
» Et puis c'est vrai que c'est tout un travail. Enfin, parfois, les personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là ont tendance à croire que c'est une évidence, c'est facile, ah oui, mais bon, c'est un épisode de 30 minutes. Mais en fait, c'est un travail de folie, entre poser sa voix, effectivement faire du son derrière, des, je ne sais pas comment on dit, mais animation sonore.
Oui, c'est ça, du sound design.
Mais aussi, puis savoir le placer au bon moment, c'est tout un travail méticuleux, en fait.
Ouais. Et souvent, on fait des allers-retours entre le script, l'enregistrement, entre l'enregistrement et le montage, on revient en arrière, on se remet en question, on discute beaucoup. Alors, c'est l'avantage d'être deux, c'est qu'on se challenge beaucoup avec Damien. On est très complémentaires, même dans nos sensibilités par rapport à ce qu'on produit. Puis aussi, moi, j'ai peut-être une sensibilité plus féminine. Lui a un point de vue plus, peut-être parfois plus masculin, mais après, on essaie de ne pas avoir ces biais-là. Mais ça nous aide beaucoup à... Voilà, quand on bloque sur une séquence, sur un montage, on se passe la main et donc ça permet de respirer. Et ça, c'est le travail en binôme pour ça aide beaucoup.
Ouais,
quoi.
C'est vrai.
Mais après, il y a des podcasts qui sont beaucoup plus faciles à faire où, voilà, si c'est du conversationnel, on se pose autour d'une table, on pose des questions et on parle comme on est en train de faire maintenant.
Oui.
On peut y aller un peu plus freestyle, même s'il y a toujours une phase de préparation.
Oui, de préparation et de montage. Quand c'est différent parce que c'est une conversation. Alors que quand on raconte une histoire, il faut.
Il faut
tout inventer, il faut capter l'attention, comme dans une conversation. Les enfants, pour avoir leur attention, concentration, il faut aussi les captiver dès le début.
Exactement, c'est un public qui est impitoyable, mais impitoyable. Si on met deux fois le même son de prout ou de petite mouche qui passe, ils vont l'entendre tout de suite. Ah, t'as mis deux fois le même son. Alors là, je comprends pas ce que tu dis. Enfin, voilà, ça passe ou ça casse, quoi. Et quand ils aiment pas, ils le disent aussi. Voilà. Donc on teste, on fait toujours tester nos épisodes à nos propres enfants en public bêta. Rien qu'à leur comportement, on sait qu'on doit retravailler ou que c'est validé.
Quand t'aimes pas, t'es sûre.
Tu la trouves nulle, ma blague. Ouais, elle est nulle, ta blague, maman. Bon, d'accord, j'enlève.
Parce que c'est toi qui poses ta voix.
Oui.
Et Damien aussi.
Oui, ouais. On joue, on compose souvent nos voix. Mmh. Et alors, après, on a toute une série de comédiens, amis, comédiens, ouais, etc. Et puis, aussi, toute une série de voix d'enfants qui viennent... Parce qu'on essaie surtout de faire parler des enfants.
Ouais, ouais,
on s'adresse aux enfants, rien de tel que des enfants qui parlent à des enfants.
Donc, complètement.
Quand on peut, on enregistre beaucoup les enfants.
D'accord.
Ouais. Les nôtres, et puis d'autres autour de nous. Voilà.
OK. Et alors, vous avez plusieurs podcasts aujourd'hui.
Oui. On est à nos... Je ne sais plus, j'ai un peu perdu le compte, mais oui, on a... Donc, la toute première série qu'on a sortie, c'est « Qu'est-ce qu'il dit ?» sur les expressions de la langue française. On a travaillé sur une toute autre thématique pour une deuxième série, Teen Story. Là, ce sont des témoignages, des récits intimes de jeunes qui racontent une période de leur adolescence. Et on part un peu dans toutes les thématiques. Voilà, c'est un peu surprenant parce qu'on essaie de prendre un peu à contre-pied certains clichés qu'on peut avoir sur les ados et,
oui,
et l'adolescence en écoutant leurs histoires et leur façon d'avoir vu cette période de leur vie, quoi. Voilà.
D'accord.
Ça, c'était plutôt un témoignage documentaire. Voilà, et c'était très intense parfois. Il y a des histoires drôles, des histoires dramatiques. Voilà, avec une note positive et voilà. C'est des récits qu'on voulait inspirants. Donc, on a rencontré 15 jeunes qui ont accepté de nous raconter leurs histoires. C'était un tout autre travail, là, on n'était pas dans la fiction. Et puis après, il y a eu Nos Héroïnes. Ça, c'est une commande de l'RTB. Enfin, ils nous avaient appelé en disant on aimerait travailler sur un podcast qui raconte des histoires de femmes inspirantes. Voilà, ça, c'était le pitch qu'on avait.
Oui, ça, oui, oui.
Ouais. Nous, on a voulu resserrer vraiment sur des femmes belges parce qu'on s'était dit que raconter encore une fois l'histoire de Coco Chanel ou Rosa Parks, ça avait déjà été traité. Donc,
oui,
on avait aussi envie d'un peu valoriser nos histoires,
ouais, vraiment,
nos femmes belges. Il y en a tellement et voilà.
Mais
on avait le budget que pour 10, hein, mais on aurait pu raconter les histoires de au moins 100. Mais voilà, on en a choisi 10 pour... Et ça aussi, grosse écriture, pareil, puisque c'est un biopic, c'est une biographie.
Ouais.
Donc, on ne pouvait pas s'éloigner d'une certaine réalité de vie.
Oui, pas dire
aussi...
n'importe quoi. Oui, non, mais enfin, être sûr de vos sources.
Voilà, donc il y avait cette recherche de nouveau, cette phase d'écriture de recherche biographique, et puis transformer ça en une écriture pour enfants, et puis l'enregistrement en studio qui a été long et fastidieux, parce qu'il y a beaucoup de personnages. On a voulu, en fait, incarner les personnages qui intervenaient dans la vie de ces héroïnes, et donc... Voilà, et puis voilà. Et on a eu la chance d'avoir même deux femmes, deux héroïnes qui sont venues interpréter leur propre rôle dans notre podcast.
Et c'était qui ?
Léa Baïekoula,
ouais,
qui a accepté de venir raconter, jouer son propre rôle, parce qu'on l'a fait jouer. C'est un biopic, c'est
une
fiction.
Ouais, ouais.
Mais elle a interprété son propre rôle. Mmh. Et alors, on a eu Colette Brackman aussi, qui a accepté de... Et pardon, je dis deux, mais trois, Justine Hénin, évidemment.
Ouais, ouais. Ah,
qui
oui,
a tout de suite, c'était notre premier épisode... Ouais. Qui a accepté de jouer le jeu, quoi. Et de refaire des matchs de tennis sonores avec moi.
Super.
Voilà. c'était génial.
D'accord. Et d'ailleurs, vous n'avez pas eu un prix pour ça, Nos Héroïnes ?
Non.
Pas du tout.
Faut prouver
d'accord.
Ça. On a eu un article dans le Télérama, ce qui était quand même une petite récompense.
Ouais, parce que je sais que j'avais vu quelques... Mais ok, bon, je le couperai.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Bon. On n'a pas été pris à longueur d'onde.
Ok.
Cette année. Par contre, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, on a eu un prix, oui. Non, pardon. On a été sélectionnés pour le prix du podcast Jeunesse. Donc, on était dans
d'accord.
une sélection de 8 podcasts. Bon, ça, on peut peut-être...
D'accord.
Couper, voilà.
Oui, oui. Mmh. Ok. D'accord.
On a eu un prix aussi pour un des épisodes.
Et au niveau du processus créatif du podcast, en fait, entre le moment où vous avez l'idée, vous écrivez, vous enregistrez, vous diffusez, etc., un épisode, il se passe combien de temps ? Enfin, comment ça se passe ? C'est quand même assez fastidieux et long.
Ouais, 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 c'est fastidieux et long. Et parfois, on est surpris par le temps. On en a... Voilà, on est aussi une boîte qui grandit, donc on apprend de nos erreurs. Mais c'est vrai que parfois, on sous-estime un peu le temps de travail, d'écriture, les allers-retours, etc. Mais pour te donner un exemple, pour une saison de Qu'est-ce qu'il dit ? La première saison, elle était un peu plus fastidieuse à sortir parce qu'il y a toujours la mise en place du format, tester le format, voir si ça fonctionne. Et puis, une fois que le format est OK, on est content de notre premier épisode. Décliner pour les suivants, c'est souvent... C'est plus rapide, on a des automatismes, etc. On se trompe moins dans l'écriture des scripts et on arrive plus vite à l'objectif. Mais donc, pour te donner à grosse échelle, qu'est-ce qu'il dit entre le moment où on a un accord sur un budget, qu'on arrive à financer la série, et le moment où on arrive à le sortir, il y a entre 3 et 4 mois, plus ou moins.
D'accord, pour la série.
pour la série, de 10 épisodes de 5-6 minutes. Quoi.
D'accord.
Pour nos héroïnes, là, c'est des épisodes plus longs.
Ouais.
Y avait plus de travail de recherche, d'écriture, etc. C'est évidemment écrire un script de 5 minutes dans un format très cadré, comme Qu'est-ce qu'il dit, ou écrire une histoire qui est chaque fois faite pour l'héroïne en question. Enfin, on ne pouvait pas décliner le format. Enfin, il y avait des points de format, mais on ne pouvait pas copier-coller le montage son de l'une à l'autre. Et là, ça a été on a débordé en termes de temps, etc. Donc, entre le premier pitch et le moment où on a pu sortir les 10 épisodes, il y a eu presque 10 mois, je pense.
D'accord.
Ouais, de travail assez intensif, quoi. Donc, on était quasiment à temps plein tous les deux sur ce projet pendant, 6 mois, quoi.
D'accord.
Full. Le montage est long, les enregistrements, planifier les rencontres, voilà,
mais c'est ça.
Tout est long, ouais.
Oui, parce que vous êtes dépendant aussi des autres, enfin,
oui.
Voilà,
ouais, oui,
avec les autres.
Entre le moment d'écriture où tu peux faire ça quand tu veux et le moment vraiment de montage où tu fais ça chez toi avec ton ordi, il y a toute cette phase d'enregistrement où là, c'est de la production, donc il faut organiser, il faut que les gens se retrouvent au même endroit, au bon moment, pour pouvoir enregistrer dans des bonnes conditions, etc. Bah, tu sais, quand tu que quelqu'un, ça annule, ça se déplace.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Donc, pas hésiter à être à s'adapter, être flexible.
Mais c'est vrai que
quand on a une deadline, c'est aussi
on a débordé. C'est pour ça qu'on a sorti aussi la série en deux fois. Donc, il y a eu 4 épisodes au mois de mars et puis la suite au mois de juillet, parce qu'on n'arrivait pas à produire les 10 en si peu de temps. Enfin, c'était impossible physiquement, mentalement. Voilà.
D'accord.
Donc, je pense que maintenant, on a une meilleure. On peut mieux se rendre compte de notre capacité d'écriture, de production, d'enregistrement, de montage, mieux estimer encore les temps de travail.
D'accord.
Mais ça reste, ça dépend. On se dit souvent avec Damien qu'on a toujours dans une série, qu'importe laquelle, dans toutes les séries qu'on a faites, il y a toujours un ou deux épisodes, l'épisode mouton noir qu'on appelle celui qui résiste on n'arrive pas à trouver le truc qui va faire que c'est chouette et qui tout d'un coup nous demande beaucoup plus de travail.
Ouais,
il y en a toujours
ouais.
un qui coince quoi, qui nous challenge, voilà.
Ouais.
Et finalement c'est souvent le meilleur à la fin.
D'accord. Et comment ça se passe, parce que vous êtes quand même deux, vous réussissez à vous mettre d'accord facilement ou
Non.
Vous avez la même vision, le même angle ou pas du tout, ou comment ça se passe?
Alors on n'est pas tout le temps d'accord, ça c'est loin d'être le cas. Mais globalement, on est extrêmement d'accord sur ce qu'on aime, les messages qu'on a envie de faire passer. On partage un certain nombre de valeurs et donc tout ça, c'est sûr que ça facilite. Je pense qu'on rigole des mêmes trucs aussi, ça c'est important. On partage, on rigole des mêmes blagues ou on adhère au même genre de. Donc ça aide évidemment pour l'écriture et pour ce qu'on a envie de produire. Par contre, c'est vrai que parfois sur les manières de faire, sur l'organisation, sur quoi on met nos prios, on peut parfois se tenir tête, quoi. Et finalement, ce qui est génial aussi, c'est que ni l'un ni l'autre, on a d'égo par rapport à ça. Donc quand on se tient tête, c'est aussi on challenge le contenu, quoi. Le but final, c'est toujours de faire du mieux qu'on peut et de sortir le meilleur truc qu'on peut. Et donc, on en discute parfois longtemps, on titille sur des trucs... mais ça reste positif, quoi.
D'accord.
Et so far so good, on va dire, on est toujours partie prenante du même projet,
Ok.
Donc.
Non, mais c'est intéressant aussi d'être deux aussi pour confronter nos idées, pour se dire ah bah oui en fait finalement mon idée n'était pas. Si bonne, était certainement très bonne, mais ou pas, j'avais pas utilisé le bon angle ou.
On a l'avantage d'être têtus tous les deux. Mais aussi de savoir lâcher et de ne pas en vouloir à l'autre.
Mm-hmm.
Jamais, quoi. Et donc, parfois, quand un des deux lâche sur un point, on est capable de reconnaître après, c'est vrai que t'avais raison, ou ça, c'est vraiment super, l'idée que t'as eue. Enfin, il y a beaucoup de reconnaissance sur l'apport qu'on met chacun sur le projet, quoi. Chacun avec notre sensibilité, notre façon de travailler. Et voilà, donc ça, c'est... Voilà, je pense que c'est ça aussi le secret d'un partenariat qui fonctionne, quoi.
Mm-hmm.
Mais c'est pas toujours évident, hein. Je pense que moi aussi, j'espère qu'il va écouter ce podcast. Il me dira sûrement que ça lui arrive de me râler dessus le soir. Ah, elle est trop chiante. Et moi aussi, je...
Oui, mais après, c'est normal.
Il lâche pas.
Et le lendemain, c'est oublié.
Et le lendemain, c'est oublié. Et puis, au final, on se rend compte que ça nous a amené plus loin que si on avait fait chacun de son côté, en fait. Voilà.
Oui, mais c'est ça. Ensemble, on va plus loin.
Exactement. On va plus loin et puis on se challenge plus, on va chercher plus de... Voilà.
Et comment vous jouez avec tout ce qui est musicalité, rythme? Comment vous arrivez à doser, à trouver le bon rythme pour capter l'attention de l'enfant ou...
Oh, là, y a...
Ouais, non, c'est...
C'est compliqué, mais c'est une question essentielle. Hein. En général, on pose tout sur une timeline, parce que là, ça se joue vraiment en post-prod, je dirais. En enregistrement, on sent déjà un peu les choses, si c'est trop long, si c'est trop court, si c'est ennuyant ou pas, ou si la phrase est mal formulée. Ça, c'est un peu de l'ordre de la musicalité aussi, mais c'est au moment où on pose tout sur une timeline qu'on écoute ce qu'on appelle un ours. Donc on met toutes les voix bout à bout, on écoute, on met éventuellement une ou deux musiques pour voir quel style de musique pourrait emphaser le propos, quoi. Et là, c'est le... Tu vois, quand je te dis c'est cette étape où on se dit « Ah, oh, c'est nul, c'est de la merde enfin, !» C'est souvent lié à ça, à ce rythme où on se dit « C'est trop long, on s'ennuie, là, ça va trop vite, on n'a rien pigé. » Enfin, c'est vraiment de l'ordre de se faire confiance dans ses sensations, quoi, dans ses sensations d'écoute, en fait. Et puis, on essaye, c'est essai-erreur, on change de musique, très souvent d'ailleurs, jusqu'à la fin d'un montage, on se dit « Ah non, mais quand même, cette musique-là, elle n'est pas adaptée. » Elle plombe ou elle donne trop de rythme. Donc, c'est vraiment... essai-erreur, quoi. Non-stop. Après, évidemment, vient l'expérience. Donc, on arrive à... Au plus on en fait, au plus c'est facile, évidemment. Au plus on se dit, ah, tiens, là, on sait quel type de musique on va aller chercher. Et puis maintenant, la recherche musicale est plus facile aussi avec l'IA. Je voudrais une musique qui fasse un peu flamenco tout en étant calme et nanana. Et il y a 10 propositions qui sortent. Ouais. À l'époque, il fallait écouter des dizaines de musiques avant de trouver la bonne. Quoi. Le référencement n'était pas aussi facile. Mais voilà, donc, je dirais essai-erreur. Et puis après, souvent, ce qui fait du bien aussi, c'est de s'éloigner un peu du montage, de faire écouter à ses enfants ou de faire écouter à quelqu'un d'autre et de se mettre en posture vraiment d'auditeur et pas de faiseur. Et là, ça aide aussi à se rendre compte des passages un peu moins réussis.
D'accord.
Donc, voilà.
Ouais, ok. Et comment tu sais quand un épisode est terminé? Tu te dis, ok, je n'y touche plus. C'est terminé. Ce qui est très dur.
Ouais, c'est vachement dur. On a toujours envie de faire des petites retouches. Donc là, pour te donner une petite anecdote, juste ce matin avant que tu arrives, j'étais en train de valider un mix et j'ai encore entendu un petit truc sur une chanson. Et je me disais, ah là là, elle n'est pas juste, il faut bouger le truc. Enfin, voilà. Mais je dirais qu'à un moment donné, il faut se faire confiance. Il y a aussi des contraintes de budget et donc de temps qu'on peut passer dessus. Et puis après, il faut délivrer. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. Enfin, il faut délivrer, il faut se dire, OK, c'est suffisamment bon pour que ce soit entendu par le reste du monde. Je crois que si un créateur ou une autrice ou n'importe qui peut dire qu'il est entièrement satisfait et qu'il peut mettre un point final facilement à son travail... J'aimerais le rencontrer.
Ouais, c'est hyper difficile. Dans le profil de gens qui créent, que ce soit des podcasts ou même qui créent vraiment quelque chose, un objet ou quelque chose, c'est très difficile. Si on pose la question, je suis sur un peintre ou un céramiste, enfin j'en sais rien, ça va être la même réponse.
Mais alors maintenant, au début, la frustration, je pense que ce qui empêche de se lancer dans des projets créatifs, c'est justement cette peur de ne pas délivrer quelque chose de bien. Ça, elle a un peu disparu avec le temps, l'expérience, l'âge, la crise de la quarantaine, tout ça. Et maintenant, c'est plus j'essaye de délivrer quelque chose de bien, absolument, d'être perfectionniste, mais c'est plutôt je ferai mieux la prochaine fois et j'apprends en faisant.
Tout à fait.
Donc maintenant, j'arrive à me dire, c'était pas super la première fois, mais la fois suivante, ça va être mieux.
Je vais ajuster pour que ça soit mieux.
Ou je maîtrise mieux un outil. Par exemple, là, on s'est amusé avec de la création musicale, ce qu'on n'avait jamais vraiment fait, en tout cas... en propre, et puis on teste l'outil, on essaye, on fait nos essais, nos erreurs, et puis on se dit c'est déjà pas mal, mais la prochaine fois on fera mieux parce qu'on sait comment on fait. Et je pense que souvent c'est ça qui bloque des auteurs, des créateurs, des n'importe quel métier qui nécessite de la création, c'est la peur de pas délivrer quelque chose de bien, ou de parfait ou de qui correspondent à ces standards esthétiques ou voilà. Et je vois que quand on s'enlève cette peur, ben on finit par faire des choses et
ouais.
Voilà. J'aime bien me rappeler à moi-même. Alors je dis ça parce que je suis un peu une perfectionniste aussi, mais j'aime bien me rappeler à moi-même. Mieux vaut fait que parfait, quoi.
Et tout à, bah voilà. Comme dans beaucoup de choses.
Comme dans beaucoup de choses. Oh, ouais. Et puis c'est pas grave, on fera mieux la prochaine
oui.
fois. Quoi.
Ouais. Oui. Oui.
Et il y a toujours des choses à améliorer, c'est clair.
Oui, mais du moins que ce soit audible et, ouais. et recevable, voilà.
Ce que je trouve chouette aussi, c'est parfois se retourner sur ce qu'on a fait et d'écouter pendant la toute première série qu'on a sorti ce genre de choses et se dire, ah bah tiens, on joue vachement mieux maintenant pour ouais. le micro. Ah, ce montage-là, il est quand même plus réussi. Ah, les consignes de mix sont plus fines. Enfin, de sentir aussi qu'il y a une évolution. Et ça fait du bien parfois de regarder derrière soi.
Oui, c'est une petite victoire à soi-même.
Hein, voir clair. Comment on s'est amélioré, tout simplement.
Ouais, ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Et puis on voit, on repère, enfin, moi je vois mon humble niveau, c'est pareil, je vois que je m'améliore un peu mieux sur ma diction, sur éviter les «
ouais.
c'est pas facile,
c'est pas évident,
mais,
hein.
mais on apprend toujours en fait.
Bah, c'est clair, en faisant, en essayant, en y allant,
exactement.
Quoi. En enlevant un peu cette crainte,
ouais.
souvent sur le dos des... Enfin, qui est aussi souvent très féminin, je dirais.
Oui, oui, parce que ouais. les autres, en fait, quand ils écoutent, ils ne remarquent pas les imperfections qu'on peut voir. Et tu te formes de temps en temps ou tu continues à te former, je ne sais
ah
pas
ouais, tout le temps, tous les jours, non-stop, ça fait partie du processus, je crois, complet. Mais alors, quand je te dis je me forme, c'est à tout, ce n'est pas que aux outils sonores, c'est... Ouais, voilà, gérer une boîte et une structure de production, ça veut dire trouver des outils pour la comptabilité, comment communiquer, faire des templates sur Canva, Illustrator, InDesign. Enfin, j'essaie tous les jours, il y a un défi à relever, quoi. Tous les jours. Et c'est voilà. Là, je dois lancer une diffusion sur Ocha, enfin Ocha, Akash, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. Mais enfin, voilà, il y a un challenge de choisir mon mode de diffusion. Enfin, c'est tout le temps non-stop.
D'accord.
Après, je pense que c'est ça qui fait aussi que mes journées sont chouettes. Moi, j'aime bien apprendre, j'aime bien...
Oui, ressortir avec une nouvelle...
Une nouvelle compétence tous les jours. Mais c'est vraiment tous les jours. S'il n'y a pas une seule fois... Voilà, la semaine dernière, on va accueillir une stagiaire au sein de Poupou de Pod et je me disais, ah, mais zut, j'arrive pas à publier en copubliant de mon profil entreprise de Poupou de Pod et mon profil personnel et je voudrais que finalement la publication aille sur mes deux profils. Mais, tu vois, tu peux faire ça.
Oui.
Et
tout
ça. Et je dis, ah ben voilà, mais tu vas m'apprendre, c'est très bien. Il y a tout le temps un challenge d'apprentissage pour moi. Ouais. Et si tu penses qu'un jour ce sera acquis, alors il faut arrêter tout de suite.
Oui. Parce que... Et surtout dans ce milieu-là, ça évolue tellement et tellement vite aujourd'hui.
Ouais.
Qu'il faut parfois être vraiment au taquet. Quoi.
Ouais. J'avoue que parfois c'est fatigant.
Ouais.
D'ailleurs, j'aimerais quand même bien avoir une IT là, qui me gère tous mes problèmes techniques, ou j'aimerais tellement bien avoir quelqu'un qui fasse toute ma com. Parce que,
c'est
mille métiers. Quoi.
Ouais. Puis il faut y passer du temps. Et quand, comme tu disais tout à l'heure, quand on est un peu. On veut que ce soit au moins presque parfait. On peut passer beaucoup de temps.
Ouais, c'est ça. Mais ça, maintenant,
là, ça va mieux.
Disons que ça, ce serait mon gros challenge d'apprentissage, c'est apprendre à mieux gérer mon temps et de pas mettre trop d'énergie dans des tâches plus, voilà, qui sont pas forcément strictement nécessaires ou voilà, de doser l'énergie et la gestion de l'énergie, quoi, pour pas cramer en fait, pour pas me fatiguer.
Trop. Ouais. Effectivement. Et pour créer tes histoires, comment tu t'inspires? Quelles sont tes sources d'inspiration?
Alors, il y a beaucoup de la vie quotidienne, ça c'est sûr. De mes enfants, des discussions que j'ai avec mes amis, de ce que je lis, de ce que je vis, de mes rencontres fortuites ou de longue date. Enfin, ça vient beaucoup de là. Parfois, c'est aussi les thématiques de société. Là, je te parlais de cette série-là qui va sortir tout prochainement, Caboche et Bidon, sur la santé et l'alimentation. Ben, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de donner aux enfants tous les outils, les meilleurs outils possibles pour être bien dans leur basket, bien dans leur peau, être curieux, aimer apprendre, en fait, des choses comme ça. Et je m'étais dit, au fond, l'alimentation, la santé, prendre conscience des besoins de son corps, c'est essentiel et ça doit être appris dès le plus jeune âge. Or, il n'y a rien qui existe.
Non.
Rien, absolument rien.
Et même à l'école, on nous apprend
rien,
pas ça.
À rien. Alors, personne n'explique aux enfants... à part leur dire tu ne peux pas boire un soda.
Ou tu dois manger des légumes.
Tu dois manger des légumes. Mais pourquoi en fait?
C'est ça.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas manger mon dessert avant le repas? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je... Enfin, on ne leur dit pas, on ne leur explique pas. Alors, il y a eu des dessins animés, La vie, la vie, des trucs comme ça.
Oui, oui, c'est vrai.
Mais,
Oui, mais...
Il y a un espèce de trou. Et alors, à côté de ça, l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, dit voilà, le plus grand fléau de la planète, c'est l'obésité. C'est ça qui va coûter une fortune à tous les États en soins de santé, etc. Mais bon, c'est en fait de la prévention, quoi, dès le plus jeune âge. Et puis même aussi de manière... Bon, il y a l'alimentation et toutes ces thématiques, voilà. Mais il y a aussi simplement apprendre à s'écouter, à reconnaître ses besoins. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup d'adultes savent ça, quoi. Que, ah, mais moi, je n'ai pas senti que j'étais angoissée, stressée, en manque de sommeil. Et puis, pouf, ça fait des burn-out. Mais en fait... apprendre à reconnaître les signes,
écouter son corps,
être en pleine conscience, ce genre de choses, c'est ultra important pour être bien longtemps, en fait.
Mais ça, est-ce que c'est pas une question... Alors, je ne sais pas. Hein. Aujourd'hui, je pense que les parents sont beaucoup plus alertes là-dessus, mais est-ce que c'est pas une question aussi de... Comment dire, d'époque ou de, d'éducation où, parfois, quand t'as mal quelque part, oui, ça va passer, et puis voilà.
Mais oui, il y a une part, il y a une part d'éducation dans la famille, etc. Mais il y a aussi, je pense, il y a une responsabilité en termes de contenu, quoi. Voilà, c'est clair que nos parents influencent un peu qui on est, mais il y a aussi plein d'autres choses qui influencent qui on est. Et donc, c'est ça qui nous intéresse quand on choisit nos thématiques avec Damien aussi, aider les parents aussi à plein de choses, quoi, à rendre curieux leurs enfants, voilà.
Quand on
part dans un contenu, c'est toujours ce choix-là qui prime, quoi. Est-ce que ça va aider les familles, les parents, les enfants à avoir un esprit plus ouvert, est-ce qu'ils vont s'amuser tout simplement, est-ce que voilà, c'est quelque chose de plus large, quoi, que simplement l'éducation pure et dure.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, aussi, les médias, là, pas forcément audio, mais la télé, quand tu vois les pubs, etc., vraiment spotter à des heures bien précises de la journée ou la soirée,
ça n'aide pas.
Si l'enfant est devant, il va se dire, moi aussi, j'ai envie de manger ça ou de boire ça.
Après, voilà. Là, l'idée, c'était pas d'être ni dans l'interdiction.
Non, mais dans la...
Mais c'est de la prise de conscience et de la compréhension de comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis après, ils font leur chemin. C'est des petits êtres intelligents.
Ouais. Exactement. Et puis c'est tellement intéressant, parfois. Même moi, je ne suis plus enfant depuis des décennies. Mais de comprendre pourquoi, quels sont les bienfaits de cet aliment, etc. Ouais. C'est hyper intéressant, en fait, au final.
Ouais.
Et on apprécie encore mieux l'aliment, soit un légume ou autre chose.
Exactement. Disons que notre objectif, c'est d'essayer de planter une graine de curiosité.
Ouais.
Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si les enfants passent à côté, c'est pas très grave. Et puis voilà, si on œuvre pour un monde meilleur, voilà. Ouais, on essaye, en tout cas, de se dire ça.
D'accord. OK.
Ouais.
Qu'est-ce que tu considères comme beau dans un podcast?
Quand ça amène de l'émotion.
Ah. Ça rejoint ma question suivante. Quelles émotions cherches-tu à provoquer chez ton auditeur?
Toutes les émotions, de la tristesse, du rire, de l'empathie, de la joie, de la peur. On essaie de travailler tout le spectre.
D'accord. Et si Pod 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 était un son, ce serait lequel?
Ce serait tigidigidigidig.
Oui.
On l'a placé dans nos génériques. C'est salut. Attention, on va vous raconter un truc.
As-tu un lieu ou un endroit où tu aimes particulièrement créer?
J'aime bien être dans un bureau calme, avoir une vue sur quelque chose de naturel, un arbre ou une plante, ou voilà.
D'accord.
Et puis sinon, je partout.
Ok. Quelle est l'idée la plus étrange ou improbable qui t'est venue pendant pendant ton processus de création pour une idée de podcast?
Un podcast? Oh, je n'ose pas le dire.
Ah bon, ne le dis pas alors.
si, je peux te le raconter. Bon, ça va être un peu gênant, mais je m'étais imaginé d'écrire un podcast qui s'appelle Trou et qui explore tous les bas-fonds et toutes les interstices de l'humanité. Donc, interviewer un proctologue, un
Ah
égouttier,
ouais, d'accord.
un plombier. Voilà, quelque chose,
Ce type de
tous les trucs où on ne veut pas aller.
truc. Ok.
Ce podcast n'existera pas,
D'accord.
mais je dirais que c'est l'idée la plus étrange
Pourquoi
que j'ai
pas?
eue.
On verra.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un accident créatif qui s'est finalement transformé en bonne idée?
Oui, j'avais posé ma voix sur un pilote pour faire valider le pilote, mais je me sentais pas légitime d'être la narratrice. Et puis quelqu'un a dit non, et puis vous changez pas la narratrice, elle est très bien. Et donc je me suis fait valider à l'insu de mon plein gré.
Ou pas?
Et puis je suis devenue narratrice de mes podcasts. Voilà.
Eh
Mais
ben.
alors que je pensais pas pouvoir le faire. Donc c'était un pur accident parce que voilà, il
Qui se
fallait le
transforme
faire.
en opportunité.
Exactement.
Et tu travailles plutôt en silence ou en musique?
Silence, toujours. Jamais en musique.
D'accord.
Impossible.
Ah ouais. C'est intéressant parce que
Impossible pour
parfois,
moi.
ou des écrivains ou écrivaines, on, parfois disent bah, je travaille en musique si ça dépend ce que je veux décrire. Mais...
Ouais, moi, c'est impossible.
Ouais.
Le seul truc que parfois je me mets dans les oreilles, c'est des trucs de méditation ou même des
Oui.
ondes sonores, des
Ouais.
trucs qui font boum comme ça, parce
Ouais.
que ça me calme le cerveau. Mais non,
D'accord.
jamais, sinon jamais de son quand je travaille. Enfin, puisque je travaille avec du son en général, je peux pas me mettre une couche
Ouais.
supplémentaire.
Quel podcast tu aurais rêvé de réaliser?
Wow, oh bah j'aurais bien aimé réaliser une série documentaire, la série documentaire là, une saison sur une thématique qui me tient à
D'accord.
cœur. Oh là là, il y en a plein. Je sais pas trop répondre. Heavyweight, c'est un podcast en anglais, américain de Heavyweight. J'aurais adoré.
D'accord.
C'est un journaliste qui règle les problèmes des gens, qui essaye de les aider à enlever le poids qu'ils ont sur leurs
Ah oui.
épaules et donc il mène toute une enquête et c'est très à la fois très rigolo et à la fois très touchant.
D'accord.
Ça, j'aurais
Ah, c'est
adoré.
intéressant ça.
Ouais.
Je vais regarder. As-tu des podcasts à recommander? Oh,
Ah
ben il y en a plein.
ouais, j'ai une. Je sais pas, celui que j'écouterai là maintenant tout de
Oui.
suite, c'est justement la série documentaire sur la protection de l'enfance, réalisée par mon ami Xavier Naud. C'est fabuleux.
D'accord.
En immersion totale, sans jugement.
Il s'appelle comment?
Ben donc c'est quatre épisodes sur la protection de l'enfance et
D'accord.
dans le flux la série documentaire de France Inter.
D'accord,
Voilà.
d'accord. Alors ça, c'est un peu ma question signature de mon podcast.
Ouais.
Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien, au sens propre du terme?
Oh, souvent des petites choses du quotidien. Un rire d'enfant, un petit chat qui passe et qui est rigolo. Je sais pas, des petites choses simples comme ça me
D'accord.
fait sourire. Voilà.
Ok. Merci Céline. Comme ça.
Je vais boire un peu d'eau.
Vas-y.
On a parlé. Tu m'as pas beaucoup coupé, hein.
Non.
On a parlé longtemps.
Bah, c'est pas mal, non?
Ah ouais, j'adore.
Ouais.
C'est trop chouette
Bah, c'était
d'avoir un
super
espace de parole
intéressant.
comme ça, mais
Ouais, c'est
merci
vraiment.
les gens qui m'ont écouté jusqu'au bout.
Après, peut-être que je couperai. Bah, de toute façon, j'ai noté, il y a
Ah
des
oui, je
choses
t'en
que je vais
supplie.
couper, mais.
Je t'en supplie.
Attends. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a éveillé votre curiosité, qu'il vous a inspiré et donné envie d'en savoir encore plus sur PodPodPod. Je vous invite à découvrir l'univers de Céline et de Damien sur leur site web ou leur compte Instagram sous le nom de PodPodPod. Céline est une personne passionnée avec un parcours riche et créatif. J'ai adoré l'interviewer. Et pour me suivre dans mon univers, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux sous le nom de Isaline Nicole, Isaline avec un Z, ou encore sur le compte Instagram dédié au podcast J'aime quand vous souriez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.